bizarre, fantasque, effrayant, philosophique ou malicieux,
tout simplement universel,
le conte,
la nouvelle ou la fable nous font des clins d'œil.
Ne boudons pas notre plaisir.
Installons-nous confortablement et écoutons.
Ciel, si ceci, ciel, si ceci,
qu'on goûte.
Une émission proposée par Jacqueline
sur Radio Bartas.
Un clou, une rose. Il n'y avait pas de lumière. Des gens marchaient sur les trottoirs et dans les rues, mais on ne les voyait pas. Elle marchait dans les rues sans lumière. Il a pris son verre dans ses mains. Par petits gestes, il a fait tourner la bière dans le fond de son verre. Il ne disait rien, et moi je parlais et devenais lentement folle. « Il y a quelque chose, ai-je dit, il y a quelque chose que tu ne me dis pas, par exemple, quelque chose que tu croirais et qui ne serait pas vrai. Dis-moi, explique-moi, parle, ai-je dit, parle. » Il ne disait rien. Nous n'avions pas l'habitude de nous expliquer les choses. Il était entendu que nous les comprenions ainsi, sans guère de paroles. Alors, je me suis dit que je n'avais qu'à partir et à laisser ainsi cette chose que je ne comprendrais jamais. Si je lui ai dit au revoir, je ne le sais plus. Je crois que je ne l'ai pas fait, que je me suis levée ainsi, que j'ai traversé la salle, que j'ai ouvert la porte, avec lui qui restait assis, qui ne me suivait pas. C'était le bistrot où nous nous retrouvions souvent, à l'enseigne d'un nom de fleur, comme au muguet ou à la giroflée. Ce n'est pas que j'ai oublié le nom, mais j'essaye toujours de ne pas le penser. J'ai marché dans la rue, il ne m'a pas rejointe. Il n'a pas crié « Irène !» Elle marchait dans les rues sans lumière. Ce n'était pas arrivé le jour même, ni la veille. Il y avait déjà un long moment que cela s'était passé. Mais depuis, lorsqu'elle marchait dans la rue, elle revoyait toujours cela. Il a pris son verre dans ses mains, il a fait tourner la bière dans le fond de son verre, il ne disait rien, et moi, je parlais et devenais lentement folle. Elle était fatiguée et la rue était en pente raide. Elle attendit le tramway. Assise dans la voiture, elle ferma les yeux. Mais les images l'assaillirent. Elle vit son visage, ses cheveux et ses mains qu'elle aimait tant. Alors, les larmes montèrent à travers son corps. Elle n'aimait pas pleurer dans le tramway. Il valait mieux encore parler, parler à soi-même. Cette chose-là, je ne la comprendrai jamais. Dany et Irène, je comprenais. Je comprenais parfaitement et le monde entier par surcroît que je croyais comprendre. Dany et Irène et le monde. Mais ce trait avec une pointe de flèche à chaque bout entre Dany et Irène, ça, je ne comprendrai jamais. Et que devient le monde alors? Quand nous nous retrouvions, nous nous joignions comme deux mains qui se joignent. Deux mains jointes, nous étions. Deux mains d'un même être, doigt contre doigt, de même longueur, paume contre paume, semblables. Et quand se serrent deux mains d'un même être, c'est par même joie ou même angoisse. Il ne me disait pas « je t'aime », moi non plus. Bien des gens autour de nous disaient « je t'aime ». Ce qui existait entre nous n'était pas ce qui existait entre ceux-là. Ils ne disaient pas « je t'aime », ils disaient « Irène ». Et moi, je disais « Dany ». Parfois, nous étions au cœur de l'amour, comme l'abeille dans la fleur refermée. Parfois, parce que ce n'était pas l'unique but de nos rencontres. Deux mains peuvent se joindre dans la joie et dans le tourment et dans l'émotion et dans la piété et dans la révolte. Mais nos amours étaient une totalité. Nous y touchions l'espérance et le désespoir, parce que nos amours étaient sauvages et purs. Dans les bruyères, dans les vergers, dans les blés coupés, dans les chambres aussi, et dans le lit des autres. C'était notre droit. C'était notre droit, je le jure. Dans nos amours, nous n'avons jamais dit d'autres paroles que « Dany, Irène ». Dany ne m'a jamais offert ni muguet, ni parfum, ni foulard, ni bague. Les cadeaux de Dany étaient un épi de blé, un clou, une feuille. Il lui arrivait de me donner des fruits, mais pas des fruits qui changent ou se corrompent. Des fruits à cloison dure et sèche et qui ont un aspect définitif, par exemple une arachide. Elle était descendue du tramway et elle marchait à nouveau vers sa maison dans des chemins de banlieue glissants et déserts. Il avait neigé et le gel avait durci une neige à demi fondue. Des plaques de verglas s'étendaient dans les chemins, elle devait marcher lentement. Quelqu'un marchait derrière elle, assez loin d'elle. Elle entendait son pas sans y prêter garde. Une feuille, un clou, une arachide. Ses cheveux étaient blonds et comme elle aimait ses mains. Dans les bruyères, dans les vergers, dans les blés coupés. À présent, la nuit était tombée. Les talus et les terrains vagues étaient noirs et blancs autour d'elle. Elle ne voyait des branches que celles où la neige restait accrochée. Elle vivait un présent sans futur. Elle portait en elle un amour sans lendemain. Le monde était vide. Elle marchait sur un chemin de boue et de neige durcie. La nuit était profonde. En cette année 1944, l'obscurcissement était total. Les rares maisons qu'elle dépassait étaient noires et mortes. Le chemin était désert, à part ce pas derrière elle, ce pas qui se rapproche et auquel elle ne prend pas garde. Dans les bruyères, dans les vergers, dans les blés coupés. Les pas de l'homme sont sur ses pas, de l'homme qui est tout près d'elle, presque contre son dos, de l'homme qui la frappe à la tête. Elle reçoit le choc en pleine souvenance d'amour. Elle se retourne sur un type en casquette qui tient un marteau de fer dans sa main levée. « Prenez tout ce que j'ai, » dit-elle, « ne me frappez plus. » Sa voix était enrayée, nouée. Entendait-il ce qu'elle disait ? Elle tendait vers lui le sac et la mallette en pégamoïde. Mais il ne prenait rien. Sa main droite restait levée. Et de sa main gauche, il la tenait près de lui par la ceinture de son manteau. Elle a regardé l'homme bien en face, afin que se dissipât en elle ce vertige de saisissement, afin que disparût cette flamme de douleur qui dansait devant ses yeux. Dans la nuit, elle voyait mal le visage de l'homme, mais il lui semblait qu'elle sentait son odeur. Elle s'imprégnait de son odeur, de l'odeur de lui-même. « Tu n'as pas de chance, » dit-elle. « Tu as perdu ton temps à frapper une femme sans fourrure ni bijoux. Et puis, tu assommes mal, tu es un idiot. Parce que, si mal assommée, je m'étais mise à crier, les gens seraient sortis de ces maisons noires et t'auraient couru après. Regarde dans tout cela. » « Prends ce qui t'intéresse et laisse-moi le reste. » Il lâcha son manteau, sa main droite tenait toujours le marteau. De sa main libre, il mit sac et mallette contre lui. « Ah non, » dit-elle, « tu ne peux pas partir avec le tout. J'ai dit que tu pouvais tout voir et que nous partagerions. je n'ai pas dit que tu pouvais tout prendre. Qu'est-ce que tu chantes ? Ne crie pas si haut, on pourrait nous entendre.
Tu as raison.
Assoyons-nous là, sur le talus. Tu n'as pas une lampe électrique ?
Oui.
Mets ton marteau en poche. Je n'aime pas voir ça.
Tu as peur ?
Non, mais j'ai eu mal. Tu m'as fait mal.
Et à présent, tu as encore mal ?
Je ne sais pas, ça m'est égal.
Je vais tout te dire.
Comme tu marchais, le cou a glissé.
C'est pour ça que je t'ai mal assommé.
La vérité, c'est que je voulais frapper plus juste sur le sommet de la tête.
Bing, avec ton marteau de fer, elle est bien bonne.
Tu as encore peur de mon marteau ?
Non, fais-le voir.
Tiens.
Ça pèse.
Je l'ai échappé belle.
Moi aussi.
Mais aussi, qu'est-ce que tu fichais toute seule dans le noir ?
Je marchais et je pensais.
À quoi tu pensais ?
À mes amours.
Tu permets ?
Je t'envoie un coup de lampe.
C'est vrai, tu es une belle fille.
Présent sans futur, amour sans lendemain, le monde est vide. Nous ne touchons ni perfection ni éternité.
Tu dis ?
Rien, je causais à moi-même. Alors, on partage ma fortune ?
Ça va, fais voir. Un paquet de cigarettes ?
C'est pour toi.
Merci, un tube de rouge, tu peux le garder.
L'argent, prends-le, ça doit faire à peu près 100 balles. Et il y a encore 50 francs dans une enveloppe. Les voilà.
Merci, un clou ?
Oui, un clou.
Un clou de sabot de cheval ?
Deux sabots de cheval.
Il est tout neuf, il n'a jamais servi.
Non, il n'a jamais servi.
C'est pour toi.
Oui, c'est pour moi.
Tiens.
Merci, dit-elle. Dis donc, les cigarettes à présent, c'est toi qui les possèdes ?
Si on en fumait une.
Parfaitement.
Aux alentours, la terre était noire et blanche. Une belle odeur de nuit d'hiver montait de la terre noire et blanche. Un pré, un vaste pré de nuit couleur de terre, s'écoulait en pente devant elle, s'écoulait à l'infini parce que l'on ne distinguait pas, au-delà de lui, la masse de la ville obscurcie, repliée dans sa léthargie de ville occupée. Elle attendait que du cœur de la ville morte montât l'alarme des sirènes et que naquît une angoisse qui eût monté en houle de la ville obscurcie, eût déferlé sur les campagnes, sur le pays, sur le monde, qui eût monté en même temps que cette vague de moisissure qui montait, se gonflait, s'étalait sur le monde et dans son cœur. Le monde est vide, le ciel est vide. Nous ne touchons ni perfection ni éternité. Mais que la terre est belle, noire de boue, blanche de gel. Que la terre est belle, noire et blanche, sous son odeur de nuit d'hiver qui monte de la terre, des arbres, de l'air.
Alors, dit-elle, si on partageait les tickets de ravitaillement ?
Oui, dit-il, ça m'intéresse.
Tiens, tu as des tickets de lait ?
Tu as un môme ?
Oui.
Tu es mariée ?
Ça ne te regarde pas.
Mais le gosse, alors ?
C'est l'homme que j'aime qui me l'a donné. Ça te suffit ?
Eh bien, tu as de la chance. Avoir un gosse de l'homme qu'on aime, c'est pas donné à tout le monde.
Non, ce n'est pas donné à tout le monde.
Embrasse-moi,
si tu veux.
Non, pas comme ça, embrasse-moi bien,
si tu veux.
Dis donc, laisse-moi te serrer dans mes bras.
Non.
Rien que te serrer dans mes bras, je ne ferai rien de ce que tu ne veux pas que je fasse, je te le jure.
À quoi ça sert ?
Pourquoi tu veux me serrer dans tes bras ?
Parce que je ne t'ai pas tué.
Elle s'était levée. Il l'a tenue un moment contre lui. Il appuyait les mains contre son dos à elle. Elle sentait son corps long comme un plan net avec deux enflures à mi-corps, l'une inerte, l'autre vivante. L'une était la tête du marteau qu'il avait glissé dans sa poche.
Je vais m'évanouir, sûrement, je vais m'évanouir.
Attends, dit-elle, laisse-moi souffler un coup, je ne vais qu'à moitié.
Qu'est-ce que tu as ? Ta tête te fait mal ?
Oui, mais ce n'est pas ça, j'ai le cœur qui tourne.
Je t'ai serré trop fort ? C'est quelque chose de moi qui t'a déplu ?
Penses-tu ? Écoute, tâche de saisir. Tu marches dans la rue, tu vois toutes sortes de choses en toi-même, pendant que tu marches, et puis on te frappe dessus par derrière, comme ça, tout un coup. Un coup dans le dos, bing, par derrière. C'est dégueulasse.
Elle passa la main sur son visage, sur son front, sur toute sa tête.
Ah, ça, dit-elle, approche ta lampe.
Dans les trois cônes de lumière, elle mit sa main couverte de sang. Avec sa lampe, il inspecta tout entière. Elle avait du sang plein les cheveux qui coulaient sur ses cheveux, sur ses épaules, sur son manteau.
« Je ne m'en étais pas aperçue, dit-elle. Comment ne l'ai-je pas senti couler dans ma nuque ?»«
Ça, dit-il, c'est tes cheveux qui ont fait gouttière. »«
Quand même, tu m'as bien arrangée. Tu es une fameuse crapule. »«
Oui, dit-il. »
Il prit son mouchoir, se mit à lui essuyer les cheveux, à tamponner la blessure. Elle était debout avec le cœur qui tournait. Un homme essuyait le sang sur ses cheveux. Bien qu'il fît doucement, cela lui faisait mal. Il tenait la lampe à hauteur de leur visage. Elle voyait sa peau d'un blanc gris, ses mèches marron qui barraient son front sous la casquette rejetée en arrière. Son visage était jeune, très maigre, archangélique ou stupide. Cet air pouvait être l'un ou l'autre. Au-delà du talus, les champs de nuit s'étendaient, rejoignaient l'horizon, s'élevaient, revenaient en arrière en coupole par-dessus eux, étaient noirs en bas et en haut. La terre était moins noire que le ciel, des taches de verglas la parsemaient. Le ciel était vide. Elle avait mal. Au coin du chemin, un arbre s'élevait, couvert de givre, miraculeux.
« Il faudrait que je rentre, » dit-elle.
« Je vais t'accompagner un brin, les chemins ne sont pas sûrs. »
Il la frottait toujours.
« Tout ce sang, dit-il, qu'est-ce que tu vas dire chez toi ?»«
Je dirais que j'ai glissé à cause du verglas, que je suis tombée en arrière, que ma tête a cogné le trottoir avec violence. »«
Eh bien, tu as vite trouvé. Tu es une belle hypocrite, toi. » »«
Alors, dans mes objets ?»
Il n'a plus rien qui t'intéresse ?
Non. Tiens, reprends tes cigarettes.
Non, garde-les.
Si, reprends-les.
On se fait des politesses ?
Alors, c'est où que tu habites ?
À deux pas, j'irai bien seule maintenant.
Avec qui tu habites ?
Avec mon frère, mon père, les quatre frères de mon père et leurs six fils.
Mon frère, s'il te voyait, il te prendrait dans ses mains. En une seconde, il ferait un nœud avec ton corps. Tu as vu Charlot policier ? Le type qui plie le réverbère ?
Mon frère, c'est un comme ça.
C'est pas vrai ?
Non, ce n'est pas vrai.
Mais où c'est que tu demeures ?
À deux pas, tu me verras bien rentrer. Allons, reste là, laisse-moi partir. Au revoir.
Au revoir, comment tu t'appelles ?
Irène, et toi ?
Jean.
Salut Jean.
Salut Irène.
Elle est rentrée sans faire le moindre bruit. Elle a entrouvert la porte de la chambre. Dan dormait. Et Maggie, la gamine qui gardait Dan, dormait aussi. Elle a refermé doucement la porte. Elle a pris un miroir à main. Devant la glace de la cheminée, en tenant le miroir derrière elle, elle a essayé de se rendre compte. Elle voyait mal à cause des lampes passées au bleu. Elle a frotté une allumette. La tenue près de sa tête, ça n'allait pas. Le miroir dans une main, l'allumette dans l'autre, et elle était trop loin de la glace. Et tous ses cheveux qui collaient là-dedans. Il aurait fallu nettoyer ça, mettre des agrafes. Elle a téléphoné à un médecin. Il habitait trop loin pour venir à pied, et il n'osait pas s'aventurer en voiture à cause du verglas. Tant mieux. Elle n'aimait pas qu'on lui mît des agrafes. Elle s'est couchée à même le plancher, sur le ventre, pour ne pas appuyer sa tête par terre. Elle a mis son visage dans son bras replié. Elle était bien assise. Maggie avait lavé le plancher et il sentait le bois humide. Elle a fermé les yeux dans son bras replié. Un clou de sabot de cheval. Dans les chambres aussi, en Lorraine, dans mon pays, la guerre m'en a chassé. Mais la guerre est partout. En Lorraine, il y a des villes couvertes d'or. En Lorraine, appuyée contre les fleurs d'un mur, j'ai dit « Si un jour tu ne m'aimes plus, il faudra me le dire. » Pourquoi as-tu fait tourner la bière dans ton verre sans rien dire ? Pourquoi n'as-tu rien dit pendant que je te disais « Parle, parle » et que je devenais lentement folle ? Dans les bruyères, dans les vergers, dans les fougères, dans les blés coupés, ma mémoire trop fidèle et sans futur, fermée à l'aujourd'hui. Elle s'affirme et se consume. Je vis dans la souvenance d'une fleur sans nom. Oh, mon amour, pourquoi m'as-tu abandonnée ? Je vis dans la souvenance d'une fleur perdue. Je vis dans mon royaume dévasté. Et je suis bien, assis dans mon bras replié, avec mes mains jointes d'angoisse, tandis qu'une vaste moisissure s'étend sur le monde. Le lendemain matin, l'homme est revenu. Il attendait devant la barrière du jardin. Elle est allée jusqu'à la grille, elle l'a ouverte. « Je n'entre pas, a-t-il dit, je viens te demander comment tu vas. »« Ça va mieux, ce n'est pas bien grave. »« Je t'ai apporté une bouteille de lait et des flocons d'avoine. » »« Merci, dit-elle, mais tu ne dois pas te priver de cela, ce n'est pas ce que tu as eu de moi qui te revernira. » Ça va, depuis j'ai trouvé ce qu'il me fallait. » Il tendit la main vers elle, la posa sur ses cheveux. « Montre-moi ta tête, tu as encore les cheveux tout rouges. »« Ce n'est pas facile à laver. Tu veux une cigarette ou deux ?»« Je veux bien. » Elle est rentrée dans la maison, elle est restée devant la barrière, elle lui a apporté les cigarettes. « Dis, tu ne m'as pas dénoncé à la police ?»« Tu n'es pas cinglé, non ?»« Je te demande pardon. Tiens, voici mon adresse. » Il lui a tendu un bout de papier. « Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi » a-t-il dit. « Si tu as besoin d'un service ou l'autre, envoie-moi un mot. »« Par exemple, tu n'as pas de bois à couper ou quelque chose dans ce genre ?»« J'aime bien couper mon bois. Il ne faut pas m'enlever mes petits plaisirs. »« Bon, je voudrais bien te faire un cadeau. Qu'est-ce que tu aimerais ?»«
Je n'aime pas beaucoup les cadeaux. »
« Il n'y a vraiment rien dont tu as envie ?»«
Ça, c'est difficile à dire. »
L'homme est parti. Elle est restée appuyée à la barrière. C'était une drôle d'histoire, cet homme qui n'avait pas craint de revenir. Ni perfection, ni éternité. Du bien et du mal. En attendant, le moisi montait par couches, sur le monde et dans son cœur, à cause de Dany. Pourquoi ne plus nous voir ? Pourquoi ne plus nous joindre comme demain que nous étions ? Je ne comprendrai jamais. Je voudrais bien te faire un cadeau. Qu'est-ce que tu aimerais ? Un cadeau. Un cadeau pour Irène. L'homme était parti et elle pouvait répondre puisque ce n'était pas à l'homme qu'elle répondait. Une rose de Jéricho. C'était « Un clou, une rose », extrait de « Les jours de la femme Louise et autres nouvelles » de Madeleine Bourdoux.
Vous venez d'écouter « Compte-gouttes » sur Radio Bartas, 107 FM.